Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, il va être bien sûr question de bande dessinée, d'écriture dessinée, avec un accent porté sur l'humour, et notamment avec notre invité François Ravard. Alors, La loi de la pesanteur, c'est le dernier récit écrit par Pascal Rabaté, mis en image par François Ravard. Il se retrouve après Didier, la cinquième roue du tracteur, et c'est une nouvelle œuvre sur l'absurdité et la fragilité de la vie. Cette fantaisie d'où sa mère s'attache à traduire en images ses accents comiques. C'est beau et puissant comme un film de Jacques Tati. Nous serons avec François Ravard, dessinateur et aquarelliste, vers 14h15. Il nous accompagnera dans ces nouveaux territoires de l'humour visuel en bande dessinée. Et pas que. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Fabien est en régie. La sélection musicale a été faite par François Ravard. Nous écouterons successivement Goldfrapp, Metronymy et David Bowie. Je voudrais commencer par deux revues qui font de la transmission et avec lesquelles on peut retrouver une histoire, un patrimoine de la bande dessinée. Ce n'est pas toujours si courant. Il y a un alfarte du patrimoine au Festival d'Angoulême qui met l'accent sur des rééditions. Et là, deux revues se sont attachées à retrouver ce qui a fait la splendeur de leur titre. Le premier, c'est Métal hurlant. Le numéro 8, qui est paru ce trimestre, eh bien, s'intitule « La ménagère de plus de 500 ans ». Et il va s'attacher, et c'est la deuxième fois depuis que le numéro a retrouvé les kiosques, qu'il s'attache à présenter ce qui a fait la force de Métal hurlant, première formule. C'est une revue qui a marqué dans les années 70, en 74 exactement, la bande dessinée avec cette revue de science-fiction, tout d'abord, qui avait été créée notamment par deux auteurs, Moebius et Philippe Druillet, accompagnés par Jean-Pierre Dionnet, qui était également scénariste et qui a tenu le rôle de rédacteur en chef pendant très longtemps. Alors, la nouvelle formule est un trimestriel, nous en sommes au numéro 8. Et là, on retrouve les grands noms, les grandes séries qui ont marqué Métal hurlant et qui ont fait que ça a été une revue qui a considérablement influencé les auteurs qui démarraient leur carrière et qui ont été bercés et biberonnés à l'esprit métal. Alors, on va retrouver tous les grands noms, et le numéro 8 s'ouvre sur ce récit Arzac, alors, qui a été de nombreuses fois réédité, mais il y a également, tout au long de ce numéro, qui est quand même un numéro d'ampleur, il y a 272 pages, donc on démarre avec Arzac, et puis on va retrouver Tardy, Druillet, Casa, Luc et Françoise Keuten, dont les premières histoires sont parues dans Métal hurlant, Nicole Claveloux avec la scénariste Editha, il y a eu Paul Guillon, il y a Chantal Montellier, il y a Christ Mirror, Jeannot, Jean-Michel Nicolet. Ils sont très nombreux donc à avoir marqué l'étape et la revue Métal hurlant, et à chaque fois en ouvrant les genres et en allant bien au-delà de la science-fiction, puisque dans ce numéro 8, on a un entretien avec Philippe Manœuvre qui avait appuyé sur le côté rock avec un dessinateur comme Serge Clair ou comme Yves Chaland. Également avec Alain Voss, dont on reprend The Rolling Clones. Il y a un entretien avec Enki Bilal, dont des pages d'Exterminator 17 avec de nouvelles couleurs sont publiées. Donc c'est un numéro qui est le dernier à porter sur la transmission. Il y a un récit inédit, mais donc sur les numéros suivants, Jerry Friesen, le rédacteur en chef de Métal Hurlant, va se consacrer uniquement à la création, va proposer que de la création. Métal Hurlant numéro 8, en kiosque depuis la fin du mois d'août, les 272 pages de cette revue sont au prix de, et je vais vous trouver ça, si tout va bien, de 20 euros. J'ai arrondi, bien évidemment. Autre titre que j'évoquais tout à l'heure, c'est le journal Tintin qui cette année 77 ans. Donc pour un journal des jeunes de 7 à 77 ans, un hommage était indispensable. Et là, c'est pareil, on va retrouver, mais cette fois de façon très différente, ce qui a fait la force de ce journal. Il a démarré en 1946 en Belgique, en 1948 en France. Il est publié par les éditions du Lombard. Il y avait eu, au moment des 70 ans, un numéro recueil. Et là, avec les éditions Moulinsart, il y a eu un rapprochement qui a permis de sortir ce numéro spécial 77 ans de 400 pages. Alors, le journal Tintin a marqué, parce que là aussi, il y avait des bandes dessinées de gens très différents, mais des bandes dessinées qui ont eu une ampleur importante, comme par exemple la série d'Hergé, Tintin, celle d'Edgar P. Jacobs, Black et Mortimer. Il y a eu Modeste et Pompon, de Franquin, qui à ce moment-là était en froid avec Spirou. Il y a eu de très nombreuses histoires. Derib et Cosset vont évoquer l'Orbe d'Ilongwe et le Jonathan de ces deux auteurs. Et donc là, on a aussi, à part ces deux derniers auteurs qui ont repris leur histoire, beaucoup, beaucoup de reprises de personnages de l'époque qui ont ainsi marqué l'histoire du journal, marqué la bande dessinée, parce que beaucoup d'auteurs aussi ont été influencés par cette création de la bande dessinée que les enfants et les jeunes et les adultes retrouvaient chaque semaine avec cette fameuse mention à suivre à la fin des histoires. Et on a eu ainsi des très grands auteurs. Je peux mentionner Hermann, Paul Cuvelier avec son très célèbre Corentin. Il y a eu Franz Machereau qui avait apporté une dimension animalière. On retrouve ainsi toutes ces tendances portées par de jeunes auteurs d'aujourd'hui qui jouent aussi bien sur une continuité pour garder l'esprit à la fois narratif et graphique, ou au contraire, comme par exemple Lewis Trondheim, qui va traiter le personnage qu'il s'est approprié avec beaucoup d'humour, de dérision et d'ironie. C'est un ensemble qui est parcouru, par exemple, par François Bouc, qui, avec son personnage d'assureur, Jérôme Mouchereau, va s'inviter dans différentes histoires. Donc il y a une totale liberté d'écriture dans ce volumineux volume de Tintin pour ses 77 ans. Alors ça n'annonce pas de retour dans les kiosques du journal, Métal hurlant, lui, continue. Mais par exemple, pour cette transmission dans une famille de ce qui a fait rêver à la fois les lecteurs, mais aussi les auteurs qui ont marqué ainsi cet amour de la bande dessinée, eh bien, c'est absolument parfait. Tintin, donc numéro spécial de 77 ans, spécial 77 ans, est donc publié par les éditions Moulinsart et les éditions Lombard en partenariat. Les 400 pages de ce titre sont au prix de 30 € et le livre est imprimé en Belgique. Virgule. Alors, je voudrais poursuivre avec deux titres qui regroupent des inventeurs de génie à la physionomie très différente, mais qui montrent la qualité et l'intensité du gag visuel en bande dessinée. La première série, elle est célèbre, elle est ancienne, elle a un côté un peu collector pour cette sortie du journal Tintin spécial 77 ans, c'est Léonard. Léonard est un génie, est une série créée par Turc et De Groot, avec Léonard, bien sûr, de Vinci, qui invente à tour de bras et qui teste sur son disciple, Basile, qui en prend mais plein la tête, c'est le cas de le dire. Le dernier en date, c'est le numéro 54, qui a une jaquette spéciale pour l'occasion, avec écrit 77, un gag supplémentaire. Et on retrouve donc les réjouissances comiques et visuelles de Léonard. Alors il y a un nouveau scénariste, après De Groot, et bien c'est Zidrou qui réalise les scénarios depuis quelques albums. Et Turc est toujours à la manœuvre. Alors, dans l'écriture de Turc, il y a une qualité, une précision qui fait que les scènes sont campées et on a une précision dans à la fois les décors, la représentation des personnages. Il y a une régularité, une qualité de cadrage. Et lorsque, Léonard invente le gaufrier électrique, il y a Mathurine, la gouvernante, qui va faire des essais, et bien sûr le disciple va prendre, puisque lui, c'est lui la gaufre. Et à chaque fois, il y a cet remarquable effet visuel qui marche très bien, parce qu'il y a cette cohérence d'ensemble et cette qualité de construction qui est là pour porter le récit. Le dessin est là pour être précis et pour que le comique opère. Dès la page 3, on a deux personnes qui viennent pour la Société protectrice des animaux et qui demandent à Léonard de se justifier pour qu'elle soit sûre qu'il n'y ait pas d'expérience faite sur les animaux. À ce moment-là, il est en train de tester une sorte de chaise électrique, et là, le disciple commence à griller joyeusement, mais à la fin de la page, on est rassuré, alors que le disciple est complètement décomposé. Les auteurs garantissent qu'aucun animal a été maltraité durant la réalisation de cet album. Donc l'effet visuel est essentiel. À chaque fois, il y a une sorte de défi pour relancer. Et il y a à chaque fois des trouvailles qui font que visuellement, c'est réjouissant. Léonard, qui avant était un génie, il l'est toujours. Donc le numéro 54, le tome 54, c'est Debout Génie. Les 48 pages de ce titre sont au prix de 12 €. Le livre est imprimé en Belgique et c'est signé Zidrou et Turc. L'autre inventeur, c'est Philippe Coudray avec l'ours Barnabé. Et on a donc un tome 23 intitulé « D'égal à égal ». Alors, l'ours Barnabé est une série qui a pas mal d'années à son actif, et il a été créé en 1980. C'est un ours qui est un inventeur pour sortir tous ses amis de situations un peu compliquées et délicates. Donc il a, pareil, une inventivité, une créativité étonnante, mais les ressorts visuels comiques ne sont pas les mêmes, et on joue beaucoup plus sur les cases muettes, sur des textes et des dialogues plutôt sommaires, sur des situations très décalées. Il y a une sorte d'univers complètement ouvert qui permet à Philippe Coudray, l'auteur de cette série, de réaliser des récits avec une variation très importante tout au long de ces pages. C'est souvent des gags en une image. Nous sommes sur un format réduit, style format roman, avec donc quelques cases par page. Et à chaque fois, l'ours Barnabé crée une situation inhabituelle. Et on est réjoui à l'idée de que les enfants puissent lire ça. C'est une très bonne série pour amener les enfants à la bande dessinée. Il y a une science de la narration. Philippe Coudray, avec je crois que c'est le Festival de Blois, propose une exposition, animation autour de l'ours Barnabé qui permet aussi aux enfants de vraiment rentrer dans ce qu'est la narration. L'ours Barnabé est depuis quelques années publié par la Boîte à Bulles, qui a fait un certain nombre de recueils. Les 48 pages de cette histoire donc sont au prix de 10,50 €. Je voudrais poursuivre par un humour un peu plus vache, un peu plus méchant parfois, libre en tout cas. Tout d'abord avec Lupano et Au hasard. Ça s'appelle Viking dans la brume, le tome 2 est Valhalla Akbar. C'est simple, il fallait juste le trouver. Et c'est là la grande force du scénariste Wilfried Lupano, que l'on connaît par ailleurs notamment parce qu'il a écrit Les vieux fourneaux, qui ont été adaptés par la suite au cinéma. Donc là, Viking dans la brume, autre titre réjouissant. Nous sommes dans les coups de massue, le spleen et les controverses théologiques chez les amis vikings qui sont partis à la découverte du vaste monde. Ils vont, pendant leur périple, récupérer un évêque, le capturer, essayer de le revendre. Très difficile. Le marché de l'évêque est en pleine crise et la crise théologique fait rage très facilement. Ils vont quand même arriver sur les rives d'un pays musulman. Et là aussi, récupérer un prophète, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Wilfried Lupano s'en donne à cœur joie. Il concocte des gags en une demi-page. Donc, on a parfois nos deux bandes d'images, mais aussi des images sur une demi-page dans lesquelles tout est contenu. Et au hasard, eh bien, c'est en fait Rodolphe Lupano, qui est le frère de Wilfried, qui est aussi donc dessinateur, illustrateur, graphiste, coloriste. Et donc c'est lui qui signe les dessins avec une très grande efficacité. Visuellement, le gag marche à fond. Il y a notamment quelques scènes mémorables des Vikings dans le sud qui sont en train de griller comme des homards. C'est une belle réussite. Et puis, un autre auteur, alors plus récent, il s'appelle Labbé, c'est un auteur qui a débarqué à Flûte glaciale il y a 4 ans, c'était en 2019, et il a lancé une série qui s'appelle « Trois cases ». Pour une chute, le tome 2 est Résurrection. Le système est simple, une page, 4 cases, une case pour le titre, 3 cases pour le récit et donc la chute pour le comique. Il y a par exemple cette histoire alien. Ça c'est le titre, première image. Empereur, les premières images de la Terre nous parviennent. Et là, on a le retour. « Ouais, le Beaujolais nouveau est arrivé. Un petit goût de banane, encore. » Dernière image. Activer le rayon de la mort. Donc on est dans ce principe-là de situations qui peuvent être connues, intégrer notre culture, on est tout de suite dans des références, et puis l'abbé va faire une fin complètement inhabituelle. Alors pour suivre la métaphore du vin, eh bien on a une autre histoire. Vin. Faire du vin est pour moi bien plus qu'un métier, c'est une passion. Voir maturer ses vignes, contempler la douce nature et vivre dans une résidence fastueuse pendant que les sales pauvres font le boulot à ma place. C'est cet art du récit et de la chute que cultive l'abbé tout au long de ce petit format. C'est publié par les éditions Fluide Glacial. Les 96 pages de ce livre sont au prix de 10 euros. Là aussi, j'arrondis. Et le livre est imprimé en France. Goldfrapp, juste après ça.
Thank you.
La loi des probabilités est un conte moderne, poétique et loufoque sur la vie et ses hasards. Le récit. Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'il nous reste 3 mois à vivre ? C'est le cas de Martin Henry. Lui, il choisit d'aller voir les baleines au Canada. Pascal Rabaté et François Ravard signent un récit vif sur l'absurdité et la fragilité de la vie. Avec un sens aigu du récit, Pascal Rabaté conte une comédie visuelle aux gags inédits dignes des grands maîtres Hergé et Tati. La loi des probabilités repose sur une mise en scène au cordeau. La lecture est limpide car chaque élément du découpage est pleinement maîtrisé. Cadrage, placement des personnages, géographie des bulles, régularité des hauteurs des bandes d'images, récit à hauteur d'yeux, gestion du temps du récit dans la page et la double page. François Ravard se distingue aussi par son dessin, douceur et rondeur du trait, empathie pour ses personnages, même pour le turbulent Séraphin Lanterne, précision de la gestuelle, des expressions du visage, typologie des personnages distincts, et puis il y a les regards. François Ravard pose avec justesse ces deux points noirs qui créent les regards. Tout au long de la loi des probabilités, le lecteur est au plus près des émotions. Les regards intérieurs nous font partager l'intimité des personnages. Résultat, un livre réjouissant qui explore et affirme de nouveaux territoires de la bande dessinée. Bonjour François Ravard.
Bonjour.
Alors, vous êtes qualifié dans le document de presse d'aquarelliste. Pourquoi cette précision qui est peu fréquente ?
Oui, c'est vrai, oui. En fait, c'est une autre facette de mon travail. Que j'ai développé au fil des ans et surtout au fil des envies, parce qu'en fait j'habite maintenant au bord de la mer et depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je m'amuse à faire des petites illustrations du dessin d'humour à l'aquarelle en traitant de la région qui m'entoure, enfin des environs de la Bretagne surtout, et en ayant comme seule obsession en fait de créer un petit gag visuel et de raconter une histoire en un seul et même dessin. Donc c'est vraiment un exercice que j'affectionne beaucoup, que je commence à développer de plus en plus. Je le développe d'ailleurs avec Fluide Glacial le plus souvent possible quand j'ai un petit peu de temps. Et du coup, c'est vrai que c'est une précision maintenant que les éditeurs... Le glisse en tout cas comme vous dites dans le descriptif, mais c'est vrai que c'est pas je me considère surtout comme un illustrateur et un dessinateur avant de penser au côté aquarelliste en tout cas, ouais.
Alors François Ravard, vous faites avec Pascal Rabaté votre deuxième livre ensemble. Donc le premier, c'était Didier, la cinquième roue du tracteur. Alors, d'accord. Comment c'est construit cette nouvelle histoire, la loi des probabilités, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous vouliez faire de différent ?
Bah, au-delà du... Alors moi, je voyais plutôt quelque chose... Je voulais justement qu'on soit dans une continuité, au-delà du fait de chercher à raconter différemment, parce que je pense que c'est ce qu'on a fait. Mais en tout cas, je voulais qu'on soit dans une continuité, dans la manière dont on parle de nos personnages, avec de l'empathie, de la bonhomie. Enfin, j'avais vraiment évidemment un peu de burlesque, même si dans la loi des probabilités, c'est presque plus graphique à certains endroits dans la manière dont j'ai mis en page l'histoire de Pascal, plus que dans Didier où c'est plus dans le ressenti par rapport à notre personnage. Mais en tout cas, on avait cette volonté d'être sur une continuité, de faire un récit joyeux, même si le thème ne l'est pas. On avait envie de faire quelque chose d'assez doux, d'assez rond, d'assez tendre, et puis d'être au plus proche de nos personnages. Et ça s'est fait, en fait, je dirais que l'idée, est né chez Pascal suite à un voyage au Québec, évidemment. Il avait fait une résidence d'auteur il y a 6 ou 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et il en avait ramené beaucoup de souvenirs. Et quand il m'a raconté tout ça, en fait, au moment où sortait Didier, la cinquième roue du tacteur, on s'est posé tout de suite des questions de le réaliser en album. Et puis je l'ai laissé travailler, et puis j'ai laissé l'histoire mûrir chez lui. Et puis petit à petit, on a commencé à voir se dessiner, à voir en tout cas se transformer le récit en bande dessinée. Et puis après, moi j'ai pris le relais, évidemment, très vite.
Alors, François Ravard, quel document vous donne Pascal Rabaté ? C'est parce qu'il est dessinateur aussi, donc c'est
exactement, ouais.
C'est une page qui est déjà prédécoupée, c'est qu'une suite dialoguée. C'est comment se passe votre collaboration?
Alors dès notre première collaboration, en fait, on s'est justement posé cette question parce que moi je me suis dit bon, je sais que Pascal avait déjà travaillé avec notamment avec David Prudhomme, avec quelques autres dessinateurs, mais malgré tout, les albums partagés comme ça à deux, il n'en avait pas fait tant que ça. Et voilà, il a cette casquette d'auteur complet en bande dessinée. Donc je me disais comment il va justement façon de partager le travail. Et moi j'avais qu'une seule peur, c'était qu'il m'envoie justement une histoire storyboardée. Parce que je me disais, si jamais, en fait, moi, avant tout, avant de collaborer avec lui, j'étais surtout un grand lecteur de son travail, et puis très jeune, hein, parce qu'il a réalisé quelques expos. J'habitais à Rennes à l'époque, et je m'amusais à le suivre au fil des expos, et puis à tenter de le rencontrer. Bon, ça s'est fait bien plus tard, mais quoi qu'il arrive, j'étais un grand lecteur, et donc, je me disais, s'il m'envoie quelque chose de trop fini, ça va complètement m'inhiber le... Enfin, moi, je vais perdre mes moyens. Et j'avais vraiment, moi, au contraire, cette envie de lui proposer un petit peu son histoire, mais avec les yeux à moi, et d'essayer de le surprendre. Donc, Pascal était ravi, puisque c'est justement ce qu'il recherche aussi dans ses collaborations. Et donc, il s'en tient à chaque fois un scénario, une suite dialoguée, mais surtout pas de découpage, de mise en page, ou de et encore moins de storyboard, évidemment, parce que si c'est juste pour recalquer son travail, c'est pas la peine. Donc je propose ma propre vision de son histoire, et en essayant à chaque fois de m'amuser visuellement, de créer du rythme dans la mise en scène, et puis surtout d'essayer de le surprendre, parce que moi c'est vraiment mon... et même de le faire rire. C'est mon but quand je reprends ses dialogues et son scénario, c'est vraiment d'essayer de le surprendre. Ouais.
François Ravard, est-ce que vous avez travaillé avec une histoire complète qui vous avait été livrée, ou est-ce qu'il y avait une fourniture au fur et à mesure, comme Charlier avait fait avec beaucoup de dessinateurs?
Je crois que pour Didier, j'avais eu quasiment une histoire complète, mais pour celui-ci, ça a été beaucoup plus morcelé. Et donc, j'avançais un peu à l'aveugle. Je ne savais pas du tout où j'allais. Donc, Pascal m'a, je pense qu'on a, terminé peut-être avec, 5-6 mois d'écart le scénario et le dessin de l'autre côté. Après, moi, j'ai mis pas mal de temps à me régler au départ, donc ça lui a laissé aussi un petit peu de temps. Je pense que ça lui a laissé aussi la place, c'est-à-dire que il avait justement un petit peu de temps devant lui avant de que je lui réclame des choses. Mais je pense qu'il a dû travailler, m'envoyer à peu près deux ou trois fois, quelque chose comme ça. Et j'ai découvert la fin comme un lecteur un peu, donc c'était quelque chose d'assez agréable, et en même temps, c'était assez excitant, parce que du coup, je vivais l'histoire en même temps que j'étais en train de la mettre en scène.
Alors, il y a entre Didier et la loi des probabilités des différences de découpage. On est sur un 3 bandes beaucoup plus régulier dans la loi des probabilités, avec quelques variations. Alors que sur Didier, on avait un récit beaucoup plus sur quatre bandes avec un rapport au cadrage, à l'image assez différent. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce que ça vous a permis au niveau de l'écriture du gag visuel?
Bah, je pense que le gaufrier, c'est vraiment que c'est devenu quelque chose d'assez classique maintenant dans la bande dessinée moderne, je dirais, là où effectivement le quatre bandes est peut-être plus ancien, enfin en tout cas dans mon imaginaire, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et ça n'a pas été réfléchi comme ça, mais c'est vrai que ça a été, enfin pour la loi des probabilités, comme je travaillais en couleur directe, j'avais, je pense, aussi un peu, même si encore une fois, je ne l'ai pas réfléchi de cette manière-là, mais j'avais envie d'avoir un petit peu plus de place dans mes planches. J'avais aussi envie de laisser de plus grandes respirations et donc de moins charger les pages à chaque fois en termes visuels, donc graphiquement, pour éviter justement le surplus de... Là où Didier, comme je travaillais à l'ordinateur, j'étais peut-être aussi plus à l'aise parce que j'avais réalisé toutes les couleurs à l'ordinateur sur Didier. Et donc voilà, je pense qu'en fait, c'était la nécessité d'avoir envie de poser les choses là où on sait que le personnage n'a plus beaucoup de temps. Bah, j'avais envie justement, moi, de m'étaler et d'étaler dans le temps un petit peu la mise en scène à travers ces trois bandes qui sont peut-être un peu... Alors ça se lit peut-être plus vite, mais moi, ça me donne cette impression un petit peu plus de lenteur, quoi, ouais.
Alors, comment visualisez-vous le gag en image? Vous avez le récit de Pascal Rabaté, et parce qu'il y a quelques gags, notamment au début où on a cette descente de piano, je pense, qui va rester, qui est assez mémorable. À quel moment vous êtes sûr que votre découpage fonctionne? Est-ce que ça, il faut que ça vous fasse rire? Comment ça se passe?
Ouais, je sais pas s'il faut que ça me fasse rien. En tout cas, peut-être que j'essaie quelque part de me surprendre, à défaut de surprendre Pascal dans un premier temps, parce qu'il voit pas encore les choses se faire. Mais je sais que quand j'ai lu cette scène la première fois, donc qui était évidemment à l'état brut, enfin vraiment, où il y a quasiment pas de dialogue, il m'a juste dit bon bah voilà, là le personnage est dans les escaliers. Le piano arrive derrière lui et puis il finit par le percuter, quoi. Je me disais, mais comment je vais faire rentrer ça? Et puis surtout, en donnant ce petit ton un peu burlesque, un peu à la Buster Keaton, parce que moi, c'était vraiment dans mon idée, j'avais envie voilà, d'exagérer les choses jusqu'à aller presque au cinéma muet, enfin, à m'amuser avec ces plans, enfin, comme si les décors étaient coupés en deux et qu'on voyait la scène de côté. Alors ça simplifiait les choses graphiquement, parce que faire un escalier qui descend avec une contre-plongée sur une cage d'escalier, c'était très compliqué. Et en même temps, ça ne m'apportait rien de le dessiner comme ça. Donc je me suis dit, tout bêtement, il faut que je m'amuse en fait à jouer avec un sens de lecture classique de l'image, qui est vraiment le sens de le début de l'action se passe en haut à gauche et se termine en bas à droite. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'on construit notre action en fonction de ça. Et puis on essaie de respecter le sens du regard du lecteur, en fait, et puis de construire son image et son gag avec ces outils-là, en fait. Mais c'est... Bon, j'ai creusé un peu l'idée, et c'est vrai que je me suis dit, voilà, ça a été mûrement réfléchi. Puis ce genre de gag, en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment de faire les choses de côté le plus simplement possible, à hauteur de personnage, donc d'être presque avec lui dans les escaliers. Et puis de le raconter d'une simplicité un peu à la Tintin, quoi. En fait, on prend l'image de côté et puis c'est ça, on raconte la scène avec un sens de lecture classique, quoi. Ouais.
En tout cas, c'est pleinement réussi. François Ravard, je vous propose une pause musicale. Alors, on va écouter votre deuxième choix, Métronymie. Et on se retrouve pour parler dessin aussi. À tout de suite.
Ça marche.
first time in that teenage misery. Yeah, I wish things were as easy, but I might save the day. Yeah, I might change the world. Things will be fine. Tell someone the better you will feel. So please put your trust in me. As soon as you do, I'll say when I've made up my mind. But you know, things will be fine. Change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world. But I need you the most. Yeah, I need you to hold. Things will be fine. Try to forget that I was only your lover.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec François Ravard à l'occasion de la publication de son livre avec François Rabaté, La loi des profondeurs. Des probabilités, pardon. Il n'est pas question de profondeur, mais quoique. La loi des probabilités, excusez-moi. François Ravard, quel rapport avez-vous avec vos personnages ? Vous avez un dessin qui est tendre, avec des rondeurs, mais est-ce que vous caractérisez vos personnages avant de démarrer vos planches ? Est-ce que vous avez une visualisation de ce qu'ils peuvent être ?
Physiquement, vous voulez dire, ouais.
Voilà, ou sur le dessin. Bon, en dessin animé, on fait ce qu'on appelle les model sheets. Est-ce que,
ouais, tout à fait,
ouais. Est-ce que vous avez une pratique équivalente pour la bande dessinée?
Oui, je pense que pour les personnages principaux, en tout cas, j'essaie de m'y atteler. J'essaie de chercher, de trouver, même de me tromper pour me dire que bah il doit pas être comme ça ou comme ci, et qu'au contraire il doit plus ressembler à tel ou tel crayonné, et donc j'essaie un petit peu de chercher comme ça, mais c'est vrai que bah l'idée c'est toujours un petit peu de ouais, j'essaie en tout cas de m'y retrouver le plus possible, et puis comme vous dites, j'ai toujours beaucoup de tendresse pour mes personnages, et j'essaie justement en tout cas de leur donner soit dans le regard, dans leur façon de bouger, même dans leur accoutrement, enfin la manière dont je les habille, toujours un petit peu de tendresse, comme si c'est quelqu'un que je connaissais, comme si on plongeait un peu dans son intimité. J'essaie de retranscrire tout ça au dessin. Ouais.
François Ravard, il y a ce couple, personnages principaux de ce récit, avec Martin et sa femme. C'est une représentation du couple qui est un peu inhabituelle, puisqu'ils sont souvent en crise dans beaucoup de récits. Et là, il y a une complicité qui s'affiche non seulement dans le récit, mais aussi dans le dessin. Alors, comment s'est passée aussi cette approche de ce couple phare de ce récit ?
On avait envie, je pense, de les mettre à la même hauteur, en fait, quoi, que ce soit par rapport à l'histoire de Pascal, qui est, ils partent quand même à l'autre bout du monde, enfin, le personnage lui demande de tout quitter, tout ça, comme ça, d'un coup. Mais voilà, on avait envie avant tout, oui, de faire ressortir cette complicité. Alors après, tant mieux si c'est vrai que si ça peut se ressentir comme ça au dessin. Mais oui, c'était vraiment quelque chose que, en tout cas, que moi j'avais en tête à travers ces petites scènes, ces petits riens en fait du quotidien, les petites choses ou des petits regards complices en fait. Je pense que ça se fait tout au long de l'histoire en fait. Ça se fait pas sur un physique ou sur une attitude, mais c'est plus le fait de les mettre bout à bout comme ça qui crée justement cette complicité, et puis le fait qu'on les mette justement à la même hauteur, en tout cas sur une échelle de valeur.
Il y a dans votre dessin ces regards qui sont ces deux petits points noirs qui arrivent sur les visages et qui donnent une profondeur d'une grande justesse. On est vraiment dans l'intimité des personnages. Comment se passe ce moment du placement de ces deux petits points noirs ?
C'est vrai que moi j'ai tendance vraiment à... Avant, j'ai eu une période en dessin où j'essayais d'en mettre un petit peu plus, et plus ça va, moins j'en mets. Et moins j'en mets, et plus j'ai l'impression que on peut toucher à la justesse de l'expression et puis dans le regard particulier, quoi, parce que c'est valable aussi pour un petit rictus, un sourire. Enfin, il y a des fois un simple trait, on dit 100 fois plus qu'un beau portrait bien travaillé. Et ça, c'est vrai que c'est au moment du crayonné, je dirais, que les choses, où on voit justement si l'expression passe ou pas. Faut vraiment bien les placer, ouais, comme vous dites, en fait, parce que c'est vrai que s'ils sont un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, on n'a plus du tout le même effet escompté. Enfin, on se retrouve à avoir une autre attitude ou à avoir une incompréhension même par rapport à la scène. Donc ça se fait assez naturellement, mais je dirais l'idée c'est en tout cas comme vous le disiez de d'en mettre le moins possible, mais pour justement toucher à la justesse et à la fois en fait d'avoir ce trait un peu tremblant, pas forcément tremblant, mais presque fragile, pour faire ressortir aussi la fragilité des personnages, et donc d'avoir de toucher un petit peu à leur trait de caractère de cette manière-là. Et je pense que le point, pour les yeux, ça contribue à ça, parce qu'il y a une fragilité dans ce tout petit point qui représente les yeux, qui fait que justement, on a tendance à se mettre à la place un petit peu plus des personnages, et puis à les approcher, enfin à approcher leur intimité, comme vous le suggérez aussi.
Est-ce que ça fait que... Vous ratez, vous recommencez, vous tempestez sur votre planche à dessin. Beaucoup, comment se passe la réalisation ?
J'ai même pris l'habitude, à force de travailler mes brouillons de façon numérique, parce qu'en fait, je passais mon temps justement avec ces petits points à gommer, à les replacer, à les essayer de faire en sorte que... ou avec même des attitudes des personnages. C'est vrai que parfois, c'est... Et une chose toute bête, c'est des fois les scènes les plus simples. C'est souvent ce qu'on dit. Même Pascal me le racontait encore hier en téléphone, que le pire à dessiner, c'est presque une scène où les personnages sont à table, où il ne se passe rien, où on tourne en rond dans la pièce autour de personnages qui sont assis en train de manger. Enfin, il n'y a aucune action, il y a juste des regards. Il faut faire passer les choses par le regard et par l'attitude, le placement des bras, des mains. Et c'est vraiment les choses les plus compliquées à dessiner. Mais c'est pour autant, moi, ce que j'apprécie le plus, parce que c'est vrai que quand on arrive à faire passer une petite émotion comme ça, en tout cas, à faire passer quelque chose dans le dessin, une intention ou une émotion, ouais. On se dit que le pari est réussi, mais c'est vrai que l'étape du brouillon, ouais, je martyrisais tellement mon papier que voilà, j'ai décidé de faire cette économie de papier et de gomme et puis de passer sur l'étape numérique pour justement retravailler, avoir cette possibilité de retravailler à l'infini toutes ces attitudes pour trouver vraiment la plus juste à chaque fois, en tout cas.
On a souvent opposé à la bande dessinée le cinéma, notamment dans la nuance des expressions, puisque le cinéma était avec des acteurs en chair, et donc on pouvait avoir ces petites nuances d'expression. À regarder la loi des probabilités, on est étonné par la palette, justement, des émotions. Jusqu'où pensez-vous que la bande dessinée peut aller dans l'expression de ces nuances, de ces légers changements d'attitude et d'émotions chez un personnage?
Ah, je pense qu'on peut aller très très loin dans la... et que j'explore vraiment que le tout début de... Enfin, comme tant d'autres dessinateurs, hein, mais je pense qu'on peut aller très très loin dans justement le passage de ces émotions, et ça joue au-delà du trait, de la sensibilité du trait. Alors, c'est vrai que moi, le fait d'avoir un trait fin, j'insiste, mais c'est vrai que ce trait fin, ça donne toute la sensibilité au dessin, en fait, sans qu'on s'en aperçoive, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va forcément noter, même si un regard averti vers la ligne claire et tout ça, mais je parle pour le lecteur à qui on va mettre le livre entre les mains. Cette ligne claire, cette petite ligne fragile comme ça, va faire passer tout un tas de choses sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est le cas aussi d'autres outils qu'on a en bande dessinée, comme les silences, la taille des cases, hein, le fait de poser une planche, une seule et même image à la place d'une planche, là où on peut raconter tout un tas de choses, et puis d'un coup d'avoir une image comme ça, pleine page, ça rallonge l'action, ça fait passer tout un tas de choses. Aussi, donc en fait, les possibilités sont, je pense, assez infinies, en fait, en tout cas là-dessus, quoi, ouais.
François Ravard, votre mise en couleur est sobre, on est sur du bleu avec toutes ces nuances. Pourquoi avoir choisi cette sobriété, mais très efficace, contrairement, par exemple, à Didier, où on avait une mise en couleur plus... plus abondante.
Oui, tout à fait. Ouais, Didier, j'avais vraiment cette envie d'avoir cette sensation de comme un bonbon qui est un bonbon, en fait. Voilà, j'avais envie de ce côté acidulé, bonbon, du rose, et en fait de marier des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le milieu agricole, tout bêtement, d'avoir ce rose, ce jaune, des couleurs presque fluo, tellement elles étaient saturées. Et là, le sujet était plus délicat, plus sensible, et je voulais, bien que celui de Didier, au fond, elle l'était aussi, mais j'avais en fait démarré la loi de probabilité avec une palette de couleurs plus étoffée. J'étais parti sur, je crois, 4 couleurs au tout départ, et en fait, je me suis rendu compte au bout de 20 planches que ces 4 couleurs me posaient plus de problèmes qu'autre chose dans la manière de gérer les mariages de ces couleurs, en fait, d'équilibrer ma planche à chaque fois. Et ça m'apparaissait presque comme une montagne, là où ça aurait dû être assez, assez simple, en tout cas. Et je me suis dit qu'en fait, je me compliquais la vie et qu'une seule couleur aurait très bien fait le travail. Et donc, au bout de 20 planches, voilà, j'ai appelé Pascal.
Ah, petite interruption. Eh ben, on va essayer de récupérer François Ravard pour terminer cet entretien, parce que c'est vrai que cette question de la couleur est assez essentielle, puisqu'on est dans cette même économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mises en couleur spectaculaires, mais il y a au contraire une sensibilité permanente. Donc, je vois Fabien qui est de nouveau... Alors, François Ravard, vous étiez en train de nous expliquer qu'au bout de 20 pages, vous avez appelé Pascal pour simplifier.
Effectivement, alors... j'avais de gros doutes, en fait, sur cette façon de procéder, mais je me suis laissé tenter, tout le monde avait l'air content, et voilà, en fait, petit à petit, je sentais que je faisais fausse route. Et donc j'ai insisté pour refaire les planches, voilà, et sans fâcher mon éditeur, évidemment, bien sûr, parce que ça impliquait d'avoir un petit peu de retard, forcément. Et je me suis lancé, en fait, j'ai essayé de trouver autre chose, et donc en fait, très vite, le bleu est venu, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je disais tout à l'heure que je fais beaucoup de dessins marins, de dessins d'humour, donc c'est une couleur qui est très présente dans mes images. Et je l'ai testé en fait tout simplement donc en monochrome avec cette espèce de camaïeu de bleu. J'ai mélangé plusieurs bleus jusqu'à trouver, j'ai mélangé de l'indigo, du turquoise, un bleu un peu plus marin. Et puis je suis arrivé à ce bleu qui me plaisait beaucoup et qui tend vers le gris un peu, mais qui n'est pas si froid que ça, en tout cas c'est pas comme ça que je le vois. Et donc cette teinte qui me plaisait beaucoup, et j'ai fait un essai sur les premières planches, et puis j'avais l'impression que c'était beaucoup plus aérien, beaucoup moins figé et beaucoup plus simple. En fait, ça tombait de sous le sens. Et puis en plus le bleu se rattachait au côté marin du récit, au froid du Québec, à la période à laquelle se passe, et presque même jusqu'au fond de l'histoire, parce que voilà, le personnage n'a plus que
Merci beaucoup François Ravard. J'ai l'impression que la liaison est en train de repartir. Voilà, ça y est. Encore. Ouais, ça y est, on y est encore.
Ah d'accord. Voilà. Pardon.
Merci beaucoup en Merci tout cas. Et puis je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc La loi des probabilités avec un scénario de Pascal Rabaté. C'est publié par les éditions Futuropolis. Les 88 pages de ce livre sont au prix de 18 euros. Et je crois qu'il doit être imprimé en France, comme c'est souvent le cas chez Futuro. Merci et très bonne continuation. Au revoir. Merci François beaucoup. Rabat. Merci. Au revoir.
Au revoir.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
La semaine prochaine, nous serons avec Jean-Michel Delambre, dessinateur de presse, mais aussi illustrateur et auteur pour la jeunesse, à l'occasion d'une exposition qu'il va présenter à Ganges, au local de l'autre côté. Et dans 15 jours, nous serons avec Ferrin, qui est scénariste et qui a fait notamment 2 titres sur les lanceurs d'alerte. Très bonne semaine à tous. Écriture dessinée.